Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h sur SBS Audio, vous écoutez votre programme en français SBS French. Je m'appelle Marianne Murat, je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les samedis, nous commençons par la rétrospective de la semaine. La rétrospective, messieurs, dames, on fait cette semaine un bond de 45 ans dans le passé. C'est arrivé le 4 mai 1979. Margaret Thatcher devient Premier ministre et entre au 10 Downing Street à Londres. Première femme chef du gouvernement britannique, elle va marquer durablement l'histoire et la décennie qui va suivre. Récit d'une ascension avec les archives de la chaîne History, de l'Institut National de l'Audiovisuel et bien sûr, Valentine Saboureau.
Si elle est assez intelligente, pourquoi pas? Golda Meir était intelligente, vous vous en souvenez? Ravie que ce soit une femme, mais ce n'est pas elle qu'il nous faut. La Grande-Bretagne a toujours été puissante sous le règne d'une femme. Elisabeth Ier, la reine Victoria, c'est deux exemples.
Le 4 mai 1979, l'Angleterre se lance dans l'inconnu. Pour la première fois de son histoire, le pays se dote en effet d'une femme première ministre, en la personne de Margaret Thatcher. Chef du Parti conservateur, elle vient de remporter les élections générales avec 339 sièges gagnés à la Chambre des communes sur 635. Une victoire franche qui signe l'alternance puisqu'elle prend la suite à Downing Street du travailliste James Callaghan. Âgée de 53 ans, Margaret Thatcher n'est toutefois pas une inconnue. Née le 13 octobre 1925 à Grantham, elle est issue d'une famille relativement modeste. Sa jeunesse, sage et austère, se déroule dans l'appartement situé au-dessus de l'épicerie familiale, où elle donne d'ailleurs un coup de main régulièrement. Calme et travailleuse, elle nourrit de grandes ambitions, comme d'entrer à l'université. Encouragée par son père, elle obtient une bourse pour suivre des études de chimie à Oxford. C'est là qu'elle se frotte à la politique et qu'elle sent combien elle diffère des jeunes favorisés qui l'entourent. En 1950 et 1951, elle est choisie pour représenter le Parti conservateur à Dartford. Elle perd cependant chaque fois, mais honorablement. Elle est surtout remarquée comme étant la plus jeune et seule femme candidate de son parti. Après une pause mariage, deux jumeaux et des études de droit, elle revient en politique et en 1959, elle est élue députée de Finchley. S'ensuit une carrière surtout marquée par un poste de ministre de l'Éducation de 1970 à 1974 et par son arrivée un an plus tard à la tête de l'opposition. Durant ce temps, elle affûte ce qui deviendra sa doctrine et surtout se verra affublée d'un surnom qu'elle gardera toute sa vie. Donald O'Sullivan pour la chaîne History.
Margaret Thatcher was for the free market, for free capitalism, and against communism in all sorts and forms. And in the 1970s, she accused the Soviet Union of being bent on world domination.
The Soviet press dubbed Thatcher the Iron Lady after a fiercely anti-communist speech she gave in 1976, and the name remained with her.
En 1979, l'Angleterre va mal. Elle est même considérée comme l'homme malade de l'Europe. Endettement, inflation et grève minent le pays. Le 23 mars, une motion de censure portée par Thatcher fait alors tomber le gouvernement en place qui convoque des élections. Trois partis principaux s'affrontent, les travaillistes, les conservateurs et les libéraux. La campagne est marquée par des propos misogynes, l'absence de grands débats télévisés et l'organisation d'une grande manifestation de syndicats conservateurs, une action d'une ampleur jamais vue. De meeting en meeting, la force de conviction de l'austère et impulsive Margaret Thatcher semble séduire y compris l'électorat travailliste traditionnel. On l'écoute ici à la fin de son spot de campagne.
Let us make this a country safe to work in. Let us make this a country safe to walk in. Let us make it a country safe to grow up in. Let us make it a country safe to grow old in. And it says above all, may this land of ours, which we love so much, find dignity and greatness and peace again.
Le 3 mai, les urnes ont parlé. Les conservateurs gagnent la majorité absolue avec 339 sièges. Ils ont voté pour un changement radical. Elle est la première femme en Angleterre et même en Europe à endosser un tel poste. Cernée par les journalistes, ses premiers mots devant le 10 Downing Street incluent une citation de Saint François d'Assise.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
Décidée à se mettre au travail sans attendre, elle restera en poste 11 ans jusqu'à sa démission en 1990. En Angleterre, deux autres femmes deviendront plus tard premières ministres. Theresa May, de 2016 à 2019, puis Liz Truss, en 2022, durant un mois et 19 jours seulement. Aucune ne laissera un tel héritage politique, car malgré les controverses, Margaret Thatcher demeure l'une des figures politiques les plus marquantes du XXe siècle, trustant régulièrement le haut des classements des meilleurs premiers ministres du pays.
De cristal Chris était sa mollisse Ah que la vie est belle Ah que la vie Ah que la vie est belle
Ah, que la vie est belle, Zao de Sagazan, encore et toujours cette chanson que l'on adore et qui fait partie de notre sélection musicale sur SBS French. Les élections européennes sont dans un mois maintenant, du 6 au 9 juin, et quasiment plus aucun État membre n'est à l'abri d'une poussée de l'extrême droite. Christophe Mallet et Nathanaël Bloch font le point dans un Europa Voice, c'est parti.
Europa Voice, et comme à chaque épisode, je suis avec notre grand ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
C'est toujours un plaisir de parler d'Europe, surtout avec toi. On va parler d'Europe avec un sujet qui, bon, ça pique un petit peu quand même, la montée du populisme, on va appeler ça, sur le vieux continent. On sait qu'il y a les élections européennes qui arrivent. Et là, cette semaine, on a appris que, en Italie, Meloni, la Première ministre, qui décide de rentrer en campagne. On a Marine Le Pen qui décide de rentrer en campagne, alors que Jordan Bardella, au final, globalement, se débrouille pas mal tout seul, on va dire. Mais non, Marine Le Pen va rentrer en campagne. C'est la même chose au Portugal, c'est la même chose en Autriche. Ça sent, il y a un vent qui vient de la droite, on va dire. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On en avait déjà pas mal parlé. Et aujourd'hui, ça se précise quand même, tout ça.
En fait, il y a une montée en puissance, Christophe, de l'extrême droite et des partis conservateurs en général en Europe. Mais ça date pas d'hier, en fait. C'est une montée en puissance qui est accélérée, si vous voulez, depuis 2010.
Il y avait eu l'arrivée de Orban, déjà, en Hongrie, qui avait quand même signalé quand même pas mal de choses. En Pologne aussi, il y a eu un gouvernement plutôt, on va pas dire extrême droite, mais qui était quand même plutôt pas mal à droite. Voilà, ça pousse un peu vers là quand même.
En fait, il y a trois choses qui font qu'on parle beaucoup de cette montée en puissance de l'extrême droite. D'abord, il faut le dire, hein, l'extrême droite, ce n'est plus un cas isolé à l'échelle là des pays membres, à l'échelle des États au niveau individuel en Europe. Il n'y a plus l'exception Orban, comme vous l'avez si justement mentionné, mais en Allemagne, en France, en Slovaquie, au Portugal avec le parti de Chega aux dernières élections législatives en mars, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, est au pouvoir déjà dans certains pays et en tout cas est bien implantée dans les parlements nationaux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, Christophe, c'est que pendant longtemps on a considéré que l'Europe et le Parlement européen pouvaient résister à cette entrée de l'extrême droite parce que l'idée d'extrême droite était tellement éloignée de l'idée d'Europe et était tellement, j'allais dire, en contradiction avec tout ce que l'Europe proposait et rejetait d'une certaine façon tellement l'Europe que c'était impossible d'élire des députés d'extrême droite. Et on l'a bien vu avec l'exemple français, en fait les discours eux-mêmes de l'extrême droite ont changé vis-à-vis de l'Union européenne. Donc ça c'est le deuxième point. Premier point, c'est l'extrême droite est présente au niveau des pays européens. Deuxième point, le discours lui-même de l'extrême droite a changé. Et puis,
le public a changé.
Le public a changé. Et pour justement rebondir sur ce point-là, la considération de l'extrême droite par les autres partis, et notamment les autres partis de droite, et là on fait un petit coucou à Ursula von der Leyen, a aussi elle changé. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'extrême droite maintenant est devenue, je ne vais pas utiliser le mot fréquentable, mais est devenue une partie de l'équation de la droite ou des conservateurs ou du Parti populaire européen pour la future mandature. Et donc ces trois éléments-là font que, comme à l'échelle des pays, l'extrême droite fait aussi un peu la pluie et le beau temps, sur les nouvelles les informations quant aux futures élections européennes.
Est-ce qu'on peut s'attendre dans les médias, simplement, peut-être une question plus aux conseillers en communication que vous pouvez être aussi, est-ce qu'on s'attend à un séisme en début juin, quand les résultats de l'élection seront connus? Est-ce que aujourd'hui on est tous en train, et il n'y a pas que nous, hein, il y a tellement de médias qui sont vraiment en train d'en parler, est-ce que c'est un séisme annoncé?
Il y a toujours cette question des sondages. C'est-à-dire que si on se fie aux sondages qui sont censés être la meilleure représentation possible à un instant T d'une photographie politique, il est évident qu'il y aura du changement au niveau du Parlement européen et qu'on verra plus de députés européens des partis d'extrême droite, plus de députés européens à des postes à responsabilité, etc. Donc c'est évident que si on suit cette logique des sondages, oui. Après, et c'est aussi le jeu de la démocratie, mais ça l'est pas que pour l'extrême droite, ça l'est aussi pour von der Leyen. Après, il va y avoir des discussions, encore plus en Europe qu'au niveau des pays, des compromis qui vont être trouvés entre les différents partis. Donc c'est difficile d'anticiper vraiment, j'allais dire, l'étendue de la photographie de l'extrême droite après les élections, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que au moment des compromis / compromissions, on va devoir prendre en compte cette extrême droite. Après, encore une fois, on n'est pas non plus à l'abri d'alliances contre nature, comme c'est le cas plus souvent au niveau justement du Parlement européen que ça est dans les parlements nationaux.
On voit des choses un peu plus inhabituelles,
exactement. Inhabituelles, et donc voilà, on va devoir aussi composer avec ça, avec les intérêts nationaux, avec les intérêts, géographiques de certaines zones européennes, avec la vieille Europe / la nouvelle Europe, avec les pays dits frugaux dont on a beaucoup parlé, la Hollande, les pays scandinaves, etc., face aux pays du Sud, aux pays qui font face aux flux d'immigration, face à ceux qui en sont plutôt plus ou moins préservés. Donc, toutes ces considérations-là vont être aussi devoir prises en compte par les partis d'extrême droite. Mais en tout cas, voilà, si on se fie au sondage, plus d'extrême droite et plus de députés pour le prochain Parlement européen. Maintenant, il va falloir attendre les discussions de groupe et voir aussi comment ils vont pouvoir peser ces partis d'extrême droite au moment des discussions entre les différentes composantes politiques du Parlement européen.
Qu'est-ce qu'on peut lire de la montée en puissance des leaders ? Je parlais de Mélanie, je parle de Marine Le Pen. Là, les leaders montent à la bataille. Est-ce qu'il y avait réellement besoin de ça ? Bon, on va juste prendre l'exemple de la France pour illustrer mon point, mais Jordan Bardella se débrouillait très bien tout seul. Dans les sondages aujourd'hui, Jordan Bardella était plutôt acquitté de plus de 33% des votes. Il fait presque le double de points que la majorité présidentielle. Il fait même plus que la majorité présidentielle et le Parti socialiste de Glucksmann qui
pourtant un peu le vent en poupe. Hein, voilà.
Donc est-ce que si on se met de ce côté-là, est-ce qu'on avait vraiment besoin de Marine Le Pen dans le débat? Est-ce qu'elle risque pas de fausser un peu ce débat? Et la même chose en Italie. Est-ce que la directrice d'un pays, enfin la dirigeante d'un pays comme Meloni peut l'être, Premier ministre en Italie, est-ce qu'elle a besoin de monter au combat pour soutenir ce côté-là?
Alors pour Meloni, pour sur ce point-là, je pense que c'est très symbolique. En fait, pour Meloni, c'est vraiment beaucoup d'analystes d'ailleurs s'accordent à dire qu'en fait, elle n'aura aucun rôle au Parlement européen, que c'est une figure populaire, c'est une femme jeune, talentueuse, et élue récemment au sein de son pays. Donc, elle est là plutôt pour, j'allais dire, être utilisée, pour qu'on utilise son image afin de conforter les voix de l'extrême droite et les voix de la droite radicale italienne pour essayer d'avoir le plus de voix possible. Je pense que Meloni, encore une fois, pas de boule de cristal, Christophe, comme d'habitude à Europa Voice, mais Meloni, c'est plus symbolique qu'autre chose. Pour Marine Le Pen, je pense qu'il y a aussi une petite peur, en fait, en interne, non pas par rapport aux élections européennes, hein, je pense que Marine Le Pen est très loin de ce qui se passe en Europe.
Jordan Bardella prendrait trop de pouvoir.
Marine Le Pen, encore une fois, la photographie, plus que la photographie, Christophe, à l'instant T, mais l'évolution de la photographie et le film, en fait, de l'extrême droite en France, c'est quand même une progression de 15 à 40%. Schématise en l'espace de 3 élections. La prochaine, c'est peut-être la bonne pour Marine Le Pen. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle se fasse bouffer de l'intérieur, qu'elle se fasse phagocyter par le jeune Bardella. Donc, je pense que autant pour Meloni, c'est symbolique et après, c'est un retrait pour se consacrer aux affaires nationales. Autant pour Le Pen, c'est aussi pour se consacrer aux affaires nationales, mais c'est un peu aussi pour barrer la route de Bardella et un petit peu lui dire attention, tes ambitions pour l'Europe, c'est très bien. Une liste à plus de 30% dans les intentions de vote, c'est très bien, mais la place en 2027, elle est pour moi.
On rappelle qui est le boss. Hein,
on rappelle qui est le boss. Donc il y a ça. Mais je ne crois pas d'ailleurs que, pour aussi sur ce point-là, je ne crois pas que ça va faire spécialement de tort à Bardella pour les élections européennes. Je crois que ça va plutôt ouvrir des dissidences et des dissonances au sein du Rassemblement national après les élections européennes. Mais voilà, je pense pas que ça va avoir de l'influence sur ce qu'est en train de faire Bardella et le succès qu'on lui promet, en tout cas, au vu, encore une fois, pour l'instant, de ce qui n'est qu'un sondage.
Absolument. Alors, vous êtes, si vous êtes français ou européen et francophone, donc du coup, et que vous avez le droit de voter dans ces élections européennes, vous pouvez toujours, bien sûr, vous inscrire auprès de votre consulat. Les inscriptions électorales sont toujours ouvertes et les votes, vous nous rappelez, c'est au tout début juin.
6 et 9 juin prochain, Christophe.
Voilà. Donc, faites vos devoirs civiques, et c'est tout ce qu'on vous demande.
Effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué. Je fais des insultes d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des insultes d'amour, d'amour, d'amour. Et pas que le bonheur si tu voles.
C'était la chanson Heure Sup de Raphaël sur les ondes de SBS Audio. Après notre podcast Europa Voice, place à notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie. Grégory Pless, accompagné de Romain Fati, parle de Peter Garrett, la rockstar australienne devenue députée puis ministre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une rockstar devenue ministre. Il s'agit de Peter Garrett, le chanteur du groupe Midnight Oil, sûrement l'un des groupes de rock australiens les plus connus de la planète. Alors, il danse un peu différemment et surtout, il a plus de cheveux. C'est Romain Fati. Bonjour, c'est avec vous qu'on va parler de Peter Garrett aujourd'hui, comme d'habitude dans notre série.
Bonjour, merci de me recevoir. Oui, en effet, je danse différemment de Peter Garrett.
Alors, il y a beaucoup à dire sur ce monsieur qui a donc à la fois a été et continue d'avoir une carrière musicale très impressionnante et donc aussi une carrière politique. On va donc faire deux épisodes pour parler de Peter Garrett, et dans celui que vous écoutez actuellement, on va s'intéresser d'abord à sa carrière musicale. On connaît bien sûr des grands tubes, hein, comme « Beds Are Burning ». Et la particularité de ce groupe, c'est que il a toujours été très engagé au niveau des messages qu'il portait dans ses chansons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Romain Fati?
Oui, alors je pense que d'abord, il faut replacer ça dans le contexte historique, parce que tout le monde n'est pas au courant de l'âge de Peter Garrett. Il est né en 1953. Donc, il naît dans l'Australie de Robert Menzies, qui est Premier ministre à l'époque, qui est une Australie dormante, hein, pour le dire très gentiment. Et donc, dans sa vingtaine... À l'âge de 20-21 ans, il commence à jouer avec ce qui s'appellera Midnight Oil très prochainement. Donc là, on est au tout début des années 70, 72, 73, 74. Et ce groupe, au début, joue énormément à Sydney et puis commence à étendre, dirais-je, sa base de fans, en fait. Et puis... voyage dans les grandes villes australiennes et commence à se faire une petite réputation, un petit nom. Et la gloire réelle arrive dans les années 80, surtout au milieu des années 80, où ils enchaînent les albums 84, 85, 87, avec des gros, gros succès, non seulement en Australie, mais aussi qui arrivent dans les hit-parades des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, enfin de tout un tas de pays. Donc c'est un des groupes australiens les plus connus, à la fois en Australie et en dehors des frontières de l'Australie.
Alors, le répertoire de ce groupe, il y a trois grands thèmes qui sont souvent abordés. Une position anti-guerre et anti-nucléaire, un attachement fort à la protection de l'environnement et également donc les droits et la reconnaissance des aborigènes en Australie. Je vais commencer par l'opposition à la guerre. C'est un sujet qui est exprimé très fortement dans l'un des premiers albums du groupe qui s'appelle 19-8-7-6-5-4-3-2-1-0 avec un morceau notamment qui s'appelle Short Memory. Et évidemment, ce compte à rebours, eh bien, c'est un compte à rebours qui n'est pas censé nous rassurer non plus sur la marche du monde au début des années 80, quand sort cet album.
Alors, absolument. Et là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. Les trois thèmes que vous avez rappelés, guerre nucléaire, environnement et les droits des aborigènes, ce ne sont pas des thèmes d'un groupe de pop tradit. Et par ailleurs, ce ne sont pas des thèmes qui auraient été utilisés ça et là, juste pour une chanson. C'est absolument constitutif de l'identité musicale et politique du groupe sur plusieurs décennies. Encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur effectivement ces débuts qui parlent énormément de la guerre, mais surtout en fait de l'arme nucléaire, il y a deux choses à dire. La première, c'est que vous êtes dans un contexte de guerre froide, dans un pays qui n'a pas l'arme atomique. Donc, vous ne sentez pas nécessairement rassuré. D'autant plus quand vous accueillez parmi les assets les plus importants de la zone Indo-Pacifique des États-Unis, hein, qui se trouvent des bases d'écoute, par exemple, qui se trouvent en Australie. Donc, si vous voulez, à l'époque de la guerre froide, l'Australie est une réelle cible. Hein, les coordonnées de certains sites américains en Australie sont dans les bases de données soviétiques. Donc, il y a cette idée que non seulement l'Australie peut être touchée par la guerre nucléaire, mais que par ailleurs, le monde pourrait s'anéantir lui-même. Ça, c'est quelque chose que les plus jeunes générations, disons nos contemporains aujourd'hui en 2024, ont un peu oublié. Hein. La menace nucléaire dans les années 60, 70, 80, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose que les gens ressentent réellement. Et par ailleurs, ça se couple dans le contexte australien à la question de l'uranium. Et donc des mines qui causent énormément de problèmes environnementaux. Donc dans les années 80 et même 90, et quand Jacques Chirac avait repris les essais en français nucléaires dans le Pacifique, ça avait été un véritable levé de bouclier en Australie. Donc aujourd'hui, la conversation sur le nucléaire reprend piano piano, mais pendant des décennies en Australie, non seulement la bombe nucléaire avait mauvaise réputation, mais en plus l'uranium avait mauvaise réputation. Et un des albums de Midnight Oil, très connu, qui s'appelle Red Sails in the Sunset, qui est sorti en 84, la couverture de cet album, c'est une photo, enfin pardon, c'est pas une photo, c'est un dessin de Sydney. Donc on voit le pont, on voit l'opéra, et on voit deux énormes cratères de bombes qui sont censés représenter Sydney après une apocalypse nucléaire. On comprend l'imaginaire par ce dessin, et bien évidemment les chansons qui se trouvent dans l'album également.
Alors, vous le disiez, c'est à cette époque clé, la première partie des années 80, que Midnight Oil commence à se constituer une base de fans assez solide en Australie. Mais leur vraie percée à l'international, c'est en 86. Le groupe vient de terminer une très longue tournée à travers tout l'Outback dans le cadre d'une tournée qui s'appelait Black Fella, White Fella. Et cette tournée, d'après Peter Garrett, ça leur a vraiment ouvert les yeux à l'ensemble du groupe aux difficultés rencontrées par les aborigènes en Australie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'embrasser vraiment cette cause.
Oui, absolument. Alors, il faut voir qu'elle... Il y a quand même peu de grands artistes qui vont se produire dans les communautés aborigènes les plus reculées. Et ils ont l'intelligence de le faire. Ils parcourent l'Australie pendant ce tour, hein, Whitefella, Blackfella, et sont accompagnés de certains artistes aborigènes. Donc, certains lui ont cassé un peu du sucre sur le dos en disant ah, c'est très facile, hein, vous allez quelques semaines, vous redécouvrez, etc. Et en réalité, non, l'engagement de Midnight Oil pour la cause aborigène, qui parfois a été dénoncé par quelques leaders aborigènes, est de manière générale positif, non seulement sur la notoriété, mais également pour faire avancer des sujets comme le droit du retour aux terres, par exemple. Donc, pendant ce tour de l'Australie, il a vraiment conscience de la réalité de l'ampleur des inégalités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient des inégalités pardon, de santé également, et disons la situation assez catastrophique dans l'ensemble des communautés aborigènes dans l'Australie du milieu des années 80. Pauvreté, manque d'accès à l'éducation. Et donc, le groupe... décide de s'investir de plus en plus avec les chanteurs aborigènes, les leaders aborigènes, et surtout sur cette question, et de la promouvoir dans leurs albums. Donc, dans de très nombreuses chansons de Midnight Oil, il y a référence à des crimes qui ont été commis contre les aborigènes, ou au fait que les choses doivent changer. Comme vous le dites, la chanson la plus connue à l'international de Midnight Oil, c'est « Beds are Burning ». Et en fait, grosso modo, le couplet principal pose la question de comment peut-on dormir quand notre planète brûle. C'est à la fois sur l'environnement, sur les dégâts que l'homme cause à la planète, mais c'est aussi sur, grosso modo, en fait, le temps est venu de reconnaître que la terre des aborigènes a été volée et que nous devons maintenant payer le loyer. Hein. Et donc, vous pouvez entendre ça sous plein de formes. Ça peut être des compensations financières, mais ça peut être aussi quelque chose de plus global, un mouvement de rétribution des terres aux aborigènes, qui est la grande question du moment à l'époque en Australie. Tous les années du Premier ministre Bob Hawke, on parle énormément de réconciliation. Alors, Bob Hawke devait apporter un traité qu'il n'a pas apporté, hein, une grande erreur politique de son temps, et le bâton est repris par le Premier ministre travailliste Paul Keating, qui lui aussi est un vrai promoteur de la réconciliation. Ce moment s'arrête avec les libéraux au pouvoir qui reviennent 96-97 avec John Howard, mais quand Midnight Oil chante la cause aborigène, chante le retour aux terres, on est dans ce moment où la majorité des Australiens commence à soutenir ça. Et en réalité, ce changement s'opère à partir de 1992 avec le jugement Mabo, qui est rendu par la Cour suprême australienne, qui ouvre la porte à la rétribution des terres de la couronne, à savoir le Commonwealth of Australia, aux groupes aborigènes, aux peuples aborigènes qui peuvent trouver une connexion ancestrale à ces terres. Donc, Midnight Oil est à la fois très novateur, mais s'inscrit aussi dans un moment socio-politique et culturel qui favorise les prises de position que le groupe prend.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Sous la peau comme une enclume, parfois. On me dévisage, on me salit le paysage. Mais je m'assume, comme toi, comme l'autre. Car je suis lune et soleil.
C'était Zaz, bien sûr, hein, avec sa voix si reconnaissable et la chanson « L'une ou l'autre ». Restez sur SBS Audio, une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour un épisode du podcast « Australia Explained ». Comprendre les liens profonds qu'entretiennent les Premières Nations avec la Terre, c'est tout de suite un épisode écrit par Yumi Oba et présenté par Audrey Bourget.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Les aborigènes d'Australie et les habitants du détroit du Torres ont une connexion spirituelle avec la Terre qui s'entremêle avec leur identité, leur sens d'appartenance et leur façon de vivre. Elles représentent leur maison ancestrale, la fondation de leur existence et la gardienne de leurs histoires. Auntie Deirdre Martin, une femme Wabanja de la nation Yuin, incarne cette profonde connexion en tant qu'aînée respectée et ranger qui travaille dans les parcs nationaux et le service de la faune sur la terre d'Ariwul en Nouvelle-Galles du Sud. Elle dit que la terre n'est pas une entité à posséder, mais plutôt une partie inséparable d'elle qui doit être respectée et traitée avec soin.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
Le lien entre les peuples des Premières Nations et leur terre est incroyablement fort. Le simple fait d'être près de leur terre peut évoquer un sens d'appartenance qui transcende les mots.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast, and the feeling of belonging just overcomes me, and I think, I'm home.
Desmond Campbell est un fier homme Gurundji et Alwa Nalkan du Territoire du Nord est le PDG de Welcome to Country, une organisation qui encourage le développement de la richesse et du succès parmi les communautés aborigènes et du détroit du Torres. Il ressent des émotions similaires lorsqu'il retourne chez lui, sur sa terre.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has will never leave you.
Il ajoute que c'est un endroit où il peut être lui-même et se sentir en sécurité.
Very joyful happiness feelings that really rises all the senses in your body. And although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Monsieur Campbell dit qu'il est important de retourner régulièrement à sa terre ancestrale, non seulement pour préserver sa culture et sa langue, mais aussi pour la profonde connexion spirituelle qu'elle encourage. Cette connexion lui donne les moyens d'être un bon leader pour son organisation.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Monsieur Campbell explique que cette connexion spirituelle avec sa terre lui vient d'histoires qu'on lui a racontées lorsqu'il était enfant, qui contenaient de l'information et des leçons à propos de sa terre.
The Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardy est un fier homme Niyamba, Yualariai, Kuma et Camila Roy, et un gardien moderne des pièges à poissons de Bruaruna, situé le long de la rivière Barwon. Il dit que la rivière est son sang.
It's about 700 meters north of the fish traps. So I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community. That brings community together. We need all those to become one.
Monsieur Hardy continue de partager les histoires de sa terre en tant que guide pour le musée de culture aborigène de Bruaruna. Il dit que c'est sa responsabilité de garder ces histoires en vie en les faisant passer à la génération suivante.
I'm fortunate enough, I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And often explain this on tour. I learn from old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, but it's about honoring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
Reconnue comme l'une des plus anciennes constructions humaines au monde. Ces pièges à poissons sont faits de roches stratégiquement placées en forme de U et de C, non seulement pour piéger des poissons, mais aussi pour en laisser passer pour qu'ils puissent continuer leur cycle de vie. Monsieur Hardy dit que c'est un site sacré où plusieurs groupes se rassemblaient.
It's a sacred site. We're going to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no, we try not to have just anyone go into them traps, you know, so mainly for our people, you know, like for what's happened in the past year. We don't have people blowing them up or anything like that. So that's our main duty, is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Le parc national où travaille Auntie Deirdre compte plusieurs sites sacrés qui ont un sens sacré pour les peuples des Premières Nations. Elle indique qu'il est important d'être bien informé avant de visiter ces sites, en sachant par exemple que certains d'entre eux sont pour les hommes et d'autres les femmes.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our countries by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I could share that story. It's sort of hard because you have a lot of males.
Engager la conversation avec les communautés autochtones locales à propos de ces sites et rechercher plus d'informations via le conseil foncier local est une preuve de respect et offre le privilège d'en apprendre plus sur la vraie histoire des peuples des Premières Nations.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history, so they can't just read about it in different books or stuff, but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
Il y avait quoi avant? Oh, yeah, yeah.
Hey, Koro.
C'est ça qu'on appelle comme manga kumba?
Toi aussi, mais il y avait déjà ça.
Voilà pour la chanson « Il y avait quoi avant » interprétée par Richard Bonnat. Dernière partie de notre émission de ce samedi 4 mai, messieurs, dames, rencontre avec Diego Filipposi, un jeune Belge qui a révolutionné le système postal pour les voyageurs nomades et les backpackers ici en Australie. Interview réalisée par Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bien, aujourd'hui dans le programme, on va parler de quelque chose qui embête bien des gens, des jeunes, des nomades, des backpackers. L'histoire d'avoir une adresse fixe. Et on parle à Diego Filipposi qui a peut-être trouvé la solution à tout ça. Bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va impeccable. Alors vous, vous avez créé votre business. Hein, on le voit derrière vous. Si on regarde la vidéo, c'est HePost. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez sourcé le problème et comment vous avez réfléchi et pensé à une solution.
En fait, ça part de ma propre histoire. Donc, je suis arrivé en 2018 comme backpacker. Et à l'époque, j'ai eu de la chance parce que je suis venu avec un petit morceau de papier où il était écrit un numéro de téléphone et un nom d'une cousine à ma grand-mère d'origine italienne dans le Victoria. Et donc, quand je suis arrivé dans le Victoria, je les ai appelés et la chance, c'est qu'ils n'habitaient pas trop loin et qu'ils ont accepté de me rencontrer. Et donc, de là, dès mon arrivée en Australie, j'étais déjà un peu préoccupé par rapport à cette question-là, comment recevoir mon courrier, étant donné que je vais partir travailler dans les fermes et puis je vais voyager autour de l'Australie. Et à l'époque, ils avaient gentiment accepté que j'utilise leur adresse postale. Et donc, ça a commencé comme ça. En fait, c'était fantastique parce que donc, je pouvais utiliser leur adresse postale, ils recevaient mon courrier et ils m'informaient à chaque fois que quelque chose arrivait.
La clé, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est nomade, un des problèmes, même en 2023, on reçoit encore des courriers importants en papier. Je pense les visas, je pense les reçus de les relevés de bancaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on reçoit encore physiquement en papier. Même si c'est de moins en moins, ça reste très important.
Oui, en effet. Donc, parlons des choses principales. Le TFN, la carte bancaire, éventuellement le certificat de police, donc le National Police Check. Qu'est-ce qu'on a aussi
Le Working with Children, par exemple. Il y a plein de choses qu'on reçoit physiquement.
Tous nos tickets également, la Wildcard, la RSA. Et donc, finalement...
Les amendes aussi, il faut le dire. Malheureusement, mais les amendes aussi.
C'est la chose primordiale. Et en fait, c'est ça en fait, c'est comment ce qu'on fait nous pour continuer à profiter de cette aventure, c'est-à-dire de passer éventuellement de ferme en ferme ou un jour être dans le Victoria, le lendemain être dans le Western Australia, tout en pouvant continuer à recevoir... notre courrier. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? Ce que faisait tout backpacker, c'était, on arrivait en Australie, on était logé dans une auberge de jeunesse, on utilisait l'adresse postale et résidentielle de l'auberge de jeunesse, on commençait nos premières tâches administratives, et puis on partait. Mais le courrier arrivait toujours à l'auberge. Et nous, on n'était jamais au courant qu'il y avait du courrier qui arrivait. Et puis malheureusement, on avait des blagues. Quoi. Et des blagues qui n'étaient pas très agréables parce qu'elles coûtent assez cher. Et donc, l'idée, ça a été qu'une fois que j'ai pu expérimenter cette expérience-là avec ma famille, mais à un moment donné, c'est arrivé à son terme, il a bien fallu que je me débrouille par moi-même. Et j'ai observé un peu ce qu'il y avait sur le marché australien et il n'y avait aucun service postal qui nous suivait dans notre aventure. C'est-à-dire, par exemple, la poste australienne met à disposition des PO Box, donc des adresses... postal, mais il faut à chaque fois se déplacer jusqu'au bureau postal pour obtenir son courrier. Alors que nous, on n'a pas le temps, en fait, et on est toujours à gauche, à droite, on suit les saisons, on suit les opportunités, et pour nous, c'est un calvaire si on devait à chaque fois changer d'adresse et passer d'une adresse d'un bureau postal à l'autre, d'un état à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce service postal. Et c'est important de différencier l'adresse de résidence et l'adresse postale. Moi, j'offre une adresse postale, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre utiliser mon adresse comme adresse de résidence. Personne ne vit dans mon bureau. D'accord? C'est une chose qui doit être claire. C'est mentionné aussi dans les termes et conditions. Et donc, finalement, en ayant une seule et unique adresse postale en Australie, dès son arrivée en Australie, ça permet de s'assurer de toujours recevoir son courrier. En fait, son courrier va arriver chez moi, chez HePost. Et moi, je vais pouvoir, une fois ils acceptent les termes et conditions, et la première condition, c'est de me permettre d'ouvrir leur courrier. Eh bien, principalement, je l'ouvre, je le scanne et je le renvoie par email. Et je le renvoie par email via un système de PDF sécurisé, c'est-à-dire que je leur donne un mot de passe et chaque document est protégé par ce système de PDF avec mot de passe. Donc, même si éventuellement quelqu'un venait avoir accès à leur messagerie électronique, mais personne n'aura accès à leurs documents et à leurs données.
Ça, c'est important parce que de plus en plus, on parle, et quand on est, bon, on va parler des jeunes, hein, les backpackers, c'est beaucoup des jeunes, il y a la notion de privacy en anglais, donc il y a toute cette protection qui doit être en place. Et si je reçois un document physique, on parlait tout à l'heure, une copie de mon Working with Children, par exemple, ou est-ce qu'il y a moyen pour vous d'envoyer aussi physiquement quelque part si je vous dis, aujourd'hui ou pour les 15 prochains jours, je suis à telle adresse?
Oui, tout à fait. En fait, excepté la carte bleue, la carte bancaire, je scanne tout document et je le renvoie directement par email. Comme ça, au moins, ils ont une copie de ce document-là. Et puis, par la suite, je les appelle et je demande, voilà, où est-ce que tu te trouves actuellement? Et certains me disent, maintenant, je suis dans le Queensland. Et donc, à ce moment-là, je mets leur document physique dans une enveloppe sécurisée et recommandée et je le renvoie à l'adresse demandée avec un système de traçabilité. Comme ça, ça leur permet de suivre l'expédition.
Alors, c'est intéressant parce que vous êtes venu donc voyager en Australie. Au final, on se parle là, vous êtes toujours en Australie et vous semblez avoir trouvé aussi votre voie. Est-ce que l'Australie, pour vous, c'est aussi ça? Vous n'auriez jamais pensé, quand vous étiez dans l'avion de la Belgique à l'Australie, de vous dire, je vais y faire ma vie ou je vais y créer mon business. Mais le pays vous a donné ça aussi.
Ah, tout à fait. Écoutez, quand je suis arrivé, j'avais déjà la trentaine, donc j'étais déjà peut-être plus mature, on va dire, et puis j'avais déjà une expérience professionnelle derrière moi. Donc, je suis peut-être arrivé en Australie de manière différente. Bien sûr, je venais en étant conscient que finalement, il allait falloir que je passe par ce travail en agriculture et puis expérimenter un peu ce que l'Australie a donné. Mais oui, j'aurais aimé et j'espérais peut-être trouver quelque chose qui me permette de rester. Et là, je pense premièrement que ce service postal-là, et c'est grâce finalement à l'Australie, parce que c'est pas un service postal ou une idée que j'ai créée. Je veux dire, ça existe dans certains d'autres pays. Ça existait ici également, ça existe au niveau des sociétés, mais pas nécessairement des personnes physiques et pas nécessairement pour les backpackers et pour les voyageurs. Et c'est pour ça que j'ai pu observer cette opportunité due à ma propre histoire, mais également observant, en allant des fois dans des auberges et voir la quantité de courriers qui étaient délaissés là-bas. Et donc, voilà.
Et c'est vrai qu'au niveau, vous parlez de la sécurité, on va finir là-dessus, mais la sécurité d'envoyer des documents sécurisés, etc. Quand on reçoit des documents bancaires dans une auberge et qu'on a, je critique pas les jeunes, mais quand on a une vingtaine d'années, on se rend pas compte à quel point ça peut être grave, en fait, de donner, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations et on peut extraire pas mal de choses d'une banque simplement en ayant un relevé de compte qui n'est pas forcément le sien, mais on peut voler les identités. Donc, c'est important de pouvoir rester sécurisé à tout point de vue, notamment pour les documents type relevé de banque.
Tout à fait. Et, écoutez, étant donné comme justement la plupart des backpackers qui arrivent en Australie sont assez jeunes et n'ont pas nécessairement des fois cette maturité.
Ça s'appelle l'insouciance. Hein. Ils ont cette insouciance, voilà, encore.
Tout à fait. Et justement, étant donné que je suis plus âgé qu'eux, je leur offre cette sécurité-là. En fait, IPOS, c'est pas une boîte postale, c'est la sécurité d'avoir quelqu'un qui veille sur vous, sachant que vous recevez toujours vos courriers, que vos courriers arrivent dans un endroit sûr, et que je suis là pour m'assurer que je vous donne la chance, par exemple au niveau des amendes. Moi, ma responsabilité, c'est de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Votre responsabilité, c'est de la payer ou pas dans le délai afin de ne pas recevoir un montant supérieur, ou de devoir être invité à vous présenter au tribunal parce que vous n'avez jamais payé vos amendes. Et voilà, mon but, c'est de rééviter d'avoir des problèmes administratifs, financiers et légaux en Australie.
Absolument, c'est cool en tout cas comme système. Merci Diego d'être venu nous parler sur SBS.
Merci à vous, au plaisir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je m'appelle Marianne Murat. Merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie pendant une heure. Je vous souhaite un excellent samedi après-midi. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et pour les dernières actualités, c'est le site internet sbs.com.au/news. À demain, messieurs, dames. Bonne journée.
entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.